Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons Cédric dans cette émission. Bonjour Cédric Gedge.
Bonjour.
Bienvenue. Alors que vous auriez pu participer il y a bien longtemps déjà à cette émission de radio, puisque vous êtes tenace, Cédric. Vous m'avez appelé, rendu visite de nombreuses fois pour me dire, je veux témoigner, je veux raconter mon histoire. Et pourtant, votre histoire, elle est douloureuse, compliqué, et même là, je vais prononcer un mot qui peut faire peur à un certain nombre de personnes. Vous êtes schizophrène et vous avez écrit ce livre, L'instinct de survie d'un éliminé, paru aux éditions Sidney Laurent. C'est un récit édifiant, osé, où vous racontez votre vie, la vie d'un enfant martyrisé, rejeté pour une
Oui.
partie, le parcours de quelqu'un qui a du mal à trouver sa place dans la société, et puis quand votre schizophrénie est diagnostiquée, vous pouvez être rejeté, perdre peut-être même votre emploi, votre parcours professionnel se complique. Cédric, quand vous regardez tout ça, on va le raconter hein, au cours de cette émission, est-ce que vous diriez que vous êtes un révolté, que vous êtes écorché vif, ou vous êtes apaisé aujourd'hui?
Révolté, c'est pas un bon mot pour la société parce que ça dépend ce qu'on met derrière et puis ensuite c'est dangereux d'être révolté parce que c'est contre la société.
Parce qu'on pourrait être violent.
On peut être violent aussi, non, mais je suis choqué et je voudrais que la société change. Mais j'aimerais que la société change de façon pas de l'idéal, ce serait pas qu'elle change de façon, il faut qu'elle change dans un sens. Le sens, ça serait, si on fait de la politique, ça serait de mettre l'amour en priorité. Plus l'argent, mais l'amour. Mais l'argent, c'est pas mal aussi. C'est mieux d'un système d'argent qu'un système fasciste. Mais après, l'amour, ça sera encore mieux, quoi. L'amour, ça serait le modèle de Jésus, quoi. Jésus sur l'amour plutôt que sur l'argent.
On parlera de votre foi, de la place de Lourdes. Mais si vous le voulez bien, Cédric, on va reprendre le fil de votre histoire. Vous êtes né à Toulouse,
C'est ça.
fin des années 70, en 1978
C'est
précisément.
ça.
Hein. Comment se passe votre enfance?
Je grandis, je navigue entre ma grand-mère, chez ma grand-mère qui était d'origine juive, et mon grand-père, et mes parents ne m'aimaient pas beaucoup. Je crois que certains disent qu'ils ne m'aimaient pas, que c'était mes ennemis, comme ma tante elle disait que mes parents étaient mes ennemis. Mon père me faisait faire le marché souvent, et il me battait pour que j'aille au marché. Ma mère me battait aussi, était violente. Un jour, mon père m'a vendu un pédophile, mais c'est arrivé après. C'est parce que en fait, d'abord il m'a Comment dirais-je? Il me battait pour aller au marché et en premier j'ai dû aller en famille d'accueil un jour parce que la voisine s'est rendue compte que mon père me battait parce qu'il y a trop de bruit chez moi. Et mon frère jouait à un jeu électrique et je voulais dormir mais il n'y avait pas de chambre. Il y avait une salle à manger qui était ouverte qui donnait à côté de la salle à manger. Il y avait une salle où il y avait une salle à côté de la salle à manger où je dormais. Et donc un jour il me cassait les pieds à son jeu électronique. Je lui dis je vais jeter ton jeu électronique par la fenêtre. Si tu continues à me casser les pieds, il voulait pas arrêter. J'étais le jeu, et mon père, après ça, il a dit à mon père, comme il m'avait dit qu'il dirait, mon frère, et mon père m'a attrapé, et il m'a jeté au sol, et m'a tapé avec les deux poings comme ça, face sur la tête. Donc j'avais une main comme ça, et du coup, après ça, je me suis relevé, je me suis défendu, parce que même là, à l'époque, j'étais tenace, oui, je ripostais contre mon père, et du coup, après, il m'a mis une poire qui m'a cassé le nez, que je me rappellerai toujours, parce qu'il m'a pété le nez. Donc j'ai une narine plus grosse que l'autre, je crois. Mais après, ça se voit à la radio, on le voit, pour que ça, quand je monte les côtes, je respire fort.
Donc, on peut dire que votre enfance, elle est compliquée, douloureuse. Votre grand-mère vous a quand même accueilli.
Oui, ma grand-mère m'a beaucoup aimé. Ma grand-mère juive.
Donc, ça, c'est important quand même, même s'il y a beaucoup de douleur. Le fait que quelqu'un vous accueille et vous aime et vous accompagne,
Oui,
ça a
mais
dû vous structurer d'une
ce qui est
certaine
important de
façon.
dire surtout, c'est que quand on est enfant, on ne dit pas qu'on est malheureux. Parce qu'on ne veut pas le montrer aux autres. Parce qu'on nous dit comment tu n'as pas honte de dire ça quand on est enfant si on dit qu'on est malheureux. Alors qu'on dit toujours que ça va. Mais en fait, on cache les choses qui ne vont pas au fond de soi. On apprend à les cacher. Puis il y a toujours des gens qui sont un peu bizarres, vous savez, qui nous disent. Alors les gens, ils disent ça permet de savoir où c'est qu'on en est. C'est-à-dire qu'ils nous disent fais-moi un joli dessin. Et ça me choquait toujours fais-moi un joli dessin. Pourquoi toujours nous, en tant qu'enfants, on est obligé de se faire un joli dessin? Pourquoi nous, toujours en tant qu'enfants, on est obligé de servir les adultes? C'est-à-dire de faire la vaisselle pour ses parents, leur aller chercher à manger, faire tout ça. Pourquoi c'est les enfants qui font tout ça?
Vous avez deux frères.
J'ai deux frères, oui.
Vous avez encore des relations avec eux, Cédric ?
Non, je n'ai plus de relations avec eux.
Donc, ni avec votre famille, ni vos parents ni...
Si, deux de mes oncles. Un oncle qui s'appelle Roger Aziza, qui est expert comptable à Toulouse, et un autre oncle qui s'appelle André, qui est réparateur télé du côté de Pibrac.
Après cette enfance douloureuse, compliquée, vous entrez dans l'âge d'adolescence et d'adulte. Vous allez pouvoir trouver quand même un parcours professionnel, faire des études. Comment ça se passe pour vous entre, on va dire, 15 et 20 ans ?
Alors, les études, ça a été compliqué parce que je n'ai pas trop étudié, en fait, au début. Au début, j'étais coincé. Je me retrouve à 18 ans à la rue parce que j'ai refusé de faire mon stage militaire. Donc, j'avais été apte à l'armée et j'ai refusé de le faire. J'ai les papiers qui sont là-dedans. Et je me retrouve donc à la rue, SDF, parce que j'ai refusé d'aller à la caserne. Et du coup, c'est difficile. Je me retrouve à Antipoule. On partage la chambre avec Raouf. Je partageais ma chambre. C'était un camarade de chambre. Et avec un box au milieu. Et après, je croise Céline un soir qui me demande d'avoir des enfants avec moi, qui me demande de me donner une maison et tout ça. Et j'ai pas voulu parce que je ne voulais pas abuser d'elle. Donc, je n'ai pas été pas en profiteur. Et j'ai pas voulu ni coucher avec elle parce que son père m'aimait pas, il n'aimait pas les juifs. J'ai pas voulu abuser d'elle parce que je me disais, s'il y a quelqu'un qui donne, ça va pas le faire. Il faut, on est deux, qu'à donner, il faut donner tous les deux. Et puis, je suis parti travailler. Alors, premier travail, c'était chez Madame Alouche à Toulouse, plongeur dans un restaurant, où j'ai tenu un mois. À la fin, j'en pouvais plus parce que il faut comprendre que le foyer de rue, on sortait le matin à 8 h. Et la nuit, je rentrais, j'avais demandé l'autorisation, je rentrais à 3 h du matin.
Et vous, donc, vous naviguez entre la rue, des petits boulots
Oui, mais après, j'ai travaillé. Après, j'ai travaillé à Saint-Marcette par la suite en horticulture. J'étais horticulteur à l'époque. Je n'ai pas eu mon diplôme parce que mon patron m'a viré. Parce que j'arrivais en retard, parce qu'on me sabotait ma billette toutes les nuits. Et la police ne voulait pas l'entendre. Et après ça, j'ai atterri à l'hôpital psychiatrique la première fois parce que j'ai fait une grève de la faim de 14 jours sans manger, sans boire. Après, j'ai passé une autre fois où c'était la voisine qui a porté plainte. Et cette fois-là, on m'a dit, vous êtes obligé de prendre les médicaments. Et donc, ça refait ce que j'ai dit tout à l'heure, quoi. C'était, je peux le raconter, mais c'est-à-dire que la voisine avec une lettre, j'ai ouvert mes volets. Dans l'ordre, c'est ça, j'ai ouvert mes volets. J'ai demandé à la voisine si elle voulait de l'aide, elle déchargeait la voiture. Je suis descendu en bas pour l'aider. Quand je suis arrivé en bas, elle était montée, elle. Son compagnon est descendu en bas, il m'attrape par le col, il me plaque contre le mur, il me dit « elle, tu la touches pas ». Je lui dis « j'ai rien fait, sinon je me serais sauvé ». Après ça, il m'a dit « je sais pas pourquoi je te crois à toi plutôt qu'à elle ». Après, il m'a lâché. Elle avait écrit une lettre à l'hôpital psychiatrique m'accusant de viol. L'hôpital m'a convoqué. J'ai dit que je voulais pas prendre les médicaments. Il me dit, monsieur, vous êtes obligé de prendre les médicaments, le psychiatre. Et à ce moment-là, je me barre, j'essaie de me sauver en sortant. Les fermiers me rattrapent, ils me tordent le bras. Le psychiatre, il me tord le bras plus fort et on m'enferme au deuxième étage en chambre forte.
Et après, ça a été des piqûres et...
Des piqûres, des médicaments de force et tout ça.
Bon, sans entrer dans le détail, ces médicaments, ils vous mettent quand même la tête à l'envers, quoi. Vous n'êtes plus le même à ce moment-là.
Les médicaments, ils sont obligatoires parce qu'ils me permettent de me corriger dans ma maladie, mais il faut savoir que tous les médicaments ont des effets secondaires. Mais après, les psychiatres, les médecins, les infirmiers disent qu'il y a des correcteurs. Mais les correcteurs, j'en prends pas parce que je supporte pas.
Donc aujourd'hui, vous êtes suivi.
Oui.
Avec des médicaments qui permettent de stabiliser votre difficulté, votre maladie, la schizophrénie.
Oui.
Question très compliquée pour tout un chacun. Mais la schizophrénie, c'est quoi? Qu'est-ce que vous vivez avec cette maladie?
Alors la schizophrénie, ça se manifeste chez différents individus différemment. Ça veut dire que les délires ne sont pas les mêmes. Par exemple, on entend des voix, mais les voix, elles peuvent varier. Ça peut être différentes voix qu'on entend. Les voix, on les entend... Et elle nous perturbe. Par exemple, c'est pour certains, ça va être tue la personne qui est à tel endroit, ou tue ton père, ou tue ta mère. Pour d'autres, ça va être des gens qui vont t'attaquer. Donc les voix, elles varient, elles sont différentes. Et donc en fonction des voix qu'on entend, on réagit différemment. Mais les voix, souvent, elles sont fausses. Ça peut être aussi des choses que l'on dit et que l'autre comprend différemment. Par exemple, je dis mercredi et comprend merci.
Et vous, ça vous arrive donc de comprendre à l'envers ce que je peux. Moi, vous dire,
Ça vous peut m'arriver, oui. Quand des moments, quand la maladie se manifeste, ça peut m'arriver.
Et alors, ces voix dont vous parlez aujourd'hui, vous en avez depuis quelque temps ou bien c'est stabilisé?
Moi, pour l'instant, c'est stabilisé, mais quand j'en ai, quand je suis le plus délirant, je ne suis pas en liberté, en principe, je suis à l'hôpital. Je me trouve à l'hôpital.
Vous comprenez qu'on puisse avoir peur des personnes qui sont touchées par la schizophrénie?
Je comprends, mais c'est parce
que... Qui
peuvent
être considérés comme dangereux, enfin, en tout cas, c'est l'interprétation qui peut être faite par tout un chacun, par ceux qui
les schizophrènes, pour moi, ne sont pas dangereux, c'est...
Ils sont dangereux contre eux-mêmes?
Contre eux-mêmes, oui, peut-être, ils sont dangereux contre eux-mêmes, parce qu'ils se mettent en danger.
Oui.
Mais après, ils sont pas, on n'est pas si dangereux que ça. Après, il y a des différents degrés dans la maladie. Différents degrés dans la maladie.
Aujourd'hui, comment vous allez?
Je vais bien. Mais vous savez, si vous réfléchissez à la schizophrénie, je ne le dis pas clairement, mais quand on entend des voix, on est tout seul à entendre des voix. À ce moment-là, on dit qu'on est schizophrène. Mais si on entend des voix collectivement, on n'est plus schizophrène. Ce qui ramène à l'histoire, Jeanne d'Arc. Vous connaissez Jeanne d'Arc, elle entendait des voix. Et pourtant, on ne sait pas si elle est toute seule ou si elle était plusieurs à entendre ses voix. Pourtant, elle entendait des voix aussi. Peut-être elle était schizophrène. Je ne sais pas, c'est une supposition.
Ça vous réconforte de vous dire que peut-être Jeanne d'Arc était schizophrène?
Ah oui, beaucoup.
Sainte Jeanne d'Arc.
Sainte Jeanne d'Arc, elle a conduit une armée quand même.
Oui, quand même.
C'est pas rien.
Cédric, vous avez combien de diplômes?
J'en ai 9.
9 diplômes? C'est pourquoi tous ces diplômes? Parce que vous êtes diplômé en cuisine, vous êtes diplômé dans le domaine de la sécurité, je crois.
Non, pas la
du
sécurité.
Secours aux personnes.
Secours aux personnes, oui.
Voilà, du secours aux personnes. Enfin, vous pourriez d'ailleurs énumérer tous ces diplômes dans lesquels vous avez investi de votre temps. Mais pourquoi? Pourquoi? Pour prouver quelque chose?
C'est une reconnaissance, montrer qu'on est capable. Montrer qu'on est capable et puis ensuite, s'égaler par rapport aux autres, se dire qu'on est comme les autres, qu'on vaut autant que les autres, qu'on n'est pas laissé de côté, quoi. Même si ça a été plus dur de les avoir, parce que, bien sûr, il y a des gens qui nous accueillent, mais il y a des gens qui nous rejettent aussi. Donc, avec les diplômes, on prouve qu'on est capable d'avoir les choses. Mais il faut avoir beaucoup de persévérance. Le combat est plus dur.
Et vous en avez de la persévérance. Nous allons nous arrêter quelques instants dans cette émission. Je rappelle le titre de votre livre... L'instinct de survie d'un éliminé. Le titre est très fort. C'est signé Cédric Gedge et c'est paru aux éditions Sidney Laurent. A tout de suite Cédric, parce que dans la deuxième partie de cette émission, nous parlons de votre foi et nous évoquons avec vous la place de Lourdes dans votre parcours. A tout de suite. Notre invité aujourd'hui, c'est Cédric Gedge. Cédric, vous nous avez raconté dans la première partie de cette émission un parcours... Plein de difficultés quand même, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous n'avez pas eu de chance dans la vie. Beaucoup de souffrances à l'enfance, des difficultés pour grandir, le temps de la rue, des difficultés également pour trouver un chemin professionnel. On vous doit ce livre, L'instinct de survie d'un éliminé, dont je disais dans la première partie de cette émission que le titre est très fort, parce que vous vous considérez comme un éliminé, Cédric.
Oui, éliminé notamment dans la vie de Céline.
C'est-à-dire... Votre amour de toujours.
Oui, j'étais éliminé.
Donc c'est pas éliminé de la société, éliminé du monde.
Si, la société aussi, un peu quelque part, mais pas complètement, parce que j'ai réussi à faire ma place. Mais Jésus dit bien, à quoi servirait la gloire de conquérir le monde si c'est au péril de sa vie. Et c'est ça qui fait mal. C'est que quand t'as réussi à avoir tous les diplômes que t'as eu et tout ce que t'as eu, t'as rien au bout, quoi.
Qu'est-ce que vous avez eu comme diplôme?
Le diplôme que j'ai eu le...
Ne me montrez pas tout, parce que vous avez amené une, oui. Une chemise dans laquelle il y a tout.
Le premier diplôme, c'est la FPS.
C'est quoi?
La FPS, c'est le premier diplôme qu'ont les pompiers, là.
Oui, d'accord.
Le premier diplôme secouriste, je crois que ça s'appelle comme ça. Après, j'ai le secours du travail. Après, j'ai le permis de conduire. Après, j'ai le PS1. Après, j'ai le PS2. Après, j'ai le diplôme d'honneur de secouriste. On m'a remis parce que j'ai sauvé une voisine. Après, j'ai 3 diplômes en cuisine. Donc, le diplôme, c'est le commis de cuisine, le premier. Le second, c'est le CAP cuisine. Et le dernier, c'est l'attestation équivalent technologie chef cuisine. Ça veut dire que c'est le niveau technologie de chef cuisinier. C'est pas le diplôme entier. C'est juste la partie écolière.
D'accord.
Il manque la pratique.
Vous faites toujours de la cuisine?
Oui, j'en fais toujours.
Oui. Faudrait que vous nous invitiez un jour.
Ah, si j'ai l'occasion, oui, je
veux
bien.
Autour d'un bon plat, passer un bon moment.
Si vous voulez, oui.
Alors, ce désir de reconnaissance, c'est à travers ces diplômes que vous passez, mais également à travers des courriers que vous échangez avec un certain nombre de personnalités connues, reconnues. Vous avez écrit au pape, au président de la République, à Jean-Jacques Goldman, enfin, que sais-je.
Oui.
Pourquoi ?
Ben,
on pourrait se dire, Cédric, il est illuminé. Pardon de prendre cette expression, parce que
oui.
C'est pas juste, mais on pourrait se dire ça.
Oui, ce que disait le psychiatre. Et en fait, pareil, pour montrer que j'arrive aussi, quoi, que je peux faire les choses, que j'arrive, que je suis capable comme les autres.
Ils vous répondent ?
Ils répondent, oui. C'est marqué dedans, il y a des
Dans
des
le
lettres.
Livre, oui, on voit des lettres que vous recevez. J'ai vu la photo de Jean-Jacques Goldman qui vous a envoyé un petit mot.
Il n'y a pas la dernière lettre de Jean-Jacques Goldman, mais je l'ai dans le classeur.
Et puis, il y a également le pape qui vous a répondu, Nicolas Sarkozy vous a répondu.
Oui. Oui, mais Nicolas Sarkozy, en même temps, je l'avais aidé à un moment donné parce que, en fait, c'était à l'époque qu'il y avait les infirmières en Libye et les médecins palestiniens. J'étais impliqué avec Avocats sans frontières. Avocats sans frontières s'appelle, pour libérer les infirmières en Libye et les médecins palestiniens. Donc j'avais envoyé des sous pour qu'ils les aident. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai écrit à Sarkozy, qui était aussi pour cette cause, il a répondu.
Oui. Alors maintenant, arrêtons-nous quelques instants sur la place de Jésus dans votre vie. C'est un réconfort pour vous de le savoir là, à vos côtés, et qu'il vous regarde comme une personne, comme une autre.
Jésus, c'est bien plus qu'une personne qui nous regarde. C'est un amour qui nous regarde. C'est bien plus qu'une personne. Parce que quand tu demandes des choses à Dieu, c'est pas comme tu les demandes à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, il peut te répondre méchamment, férocement. Jésus, il répond toujours gentiment. Ça peut pas s'exprimer.
Depuis quand il est présent dans votre vie, Jésus ?
Jésus, ça a été un long parcours.
Parce que vous nous avez dit que vous aviez de la famille juive.
Oui, c'est pour ça que ça a été un long parcours.
Mais Jésus était juif, entre nous soit dit.
Jésus était juif, mais il a été rejeté par les juifs. Quand tu vas en Israël, quand j'étais en Israël la dernière fois en 2014, quand j'ai parlé de Jésus, ils sont tous mis à rigoler. Ils sont foutus de ma gueule. J'ai même été en prison.
Et alors, vous, la place du Christ dans votre vie, ça démarre petitement.
Au début,
sans grande démonstration.
Non, c'est pas ça. C'est que l'histoire de Jésus, c'est que tu sais pas à qui t'adresser. T'es tellement désespéré dans un acte de désespoir à tel point que tu t'adresses à Jésus, en dernier recours. Et quand tu t'adresses à Jésus, tu remarques que ça prend, que tes prières sont exaucées. Et à la Vierge Marie surtout. Et t'apprends à la prier. Et au fur et à mesure que tu grandis, t'apprends à prier et tout avoir par le rosaire. Puis après, tu rends grâce à Dieu d'avoir appris le rosaire. C'est ça, tout simplement.
C'est tout simplement ça.
C'est tout simplement ça. L'arme puissante, c'est le rosaire. Il n'y a pas d'autre secret. Tout s'obtient par le rosaire.
Ce qu'on appelle parfois le chapelet, c'est
oui,
ça.
Oui, mais c'est quatre chapelets, le rosaire.
C'est quatre chapelets. Et donc, vous priez le
quatre
rosaire.
Quatre chapelets, matin et soir, oui. Et si je peux, à 3 heures, je le fais aussi. Quand je peux. Mais pas tout le temps. Des fois, je ne le fais pas. Mais normalement, je prie au moins 2 rosaires par jour. Des fois, 5 rosaires par jour. Parce que je prie la nuit aussi. Toutes les nuits, à 3 heures du matin, je me réveille. Quand je peux.
Et Jésus, pour vous, à un moment où tout paraît s'assombrir, où tout est compliqué dans votre vie, il est là.
Ben Jésus, il m'a donné le CAP. Parce que le CAP, je l'ai eu le jour où j'ai passé la fête du Sacré-Cœur de Jésus, c'était un vendredi, en juin. Et du coup, je passe mon examen ce jour-là, et je ressors, je ne connais pas les notes, mais je savais que c'était la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Donc après, derrière mon diplôme, c'est pour ça que j'ai mis Jésus, la photo de Jésus. L'image de Jésus. J'ai lu la feuille du Sacré-Cœur de Jésus. Et puis Marthe, c'est la patronne des cuisiniers.
Et la place de Lourdes dans votre parcours, racontez-moi, Cédric.
Alors Lourdes, j'y suis arrivé par accident. Par accident parce que je cherchais du travail. Et puis dans le train, je pars sans faire exprès pour aller à Lourdes. Mais au début, je devais aller à Montrégeau pour trouver dans les espaces verts. Mais le train sans faire exprès est arrivé à Lourdes. Au lieu de partir à Montrégeau, en échangeant à Saint-Gaudens ou à plus beau.
Il a filé jusqu'à Lourdes.
Il a filé jusqu'à Lourdes, je ne sais pas pourquoi. Et je me suis planté dans les trains et j'ai atterri à Lourdes un jour par accident. Et là, je dis, si je donne un verre d'eau à une jeune fille, que ma grand-mère ne se retourne pas contre moi dans sa tombe. Et je donne un verre d'eau à une jeune fille qui venait de Saint-Pétersbourg et qui habitait en Floride.
C'est compliqué, votre histoire, là.
Ah oui, c'est compliqué, parce que Saint-Pétersbourg, c'est en Russie, et habiter en Floride, c'est aux États-Unis.
Puis pourquoi donner un verre d'eau, enfin, c'est ça.
Parce que je la trouvais jolie.
Ça paraît très...
J'ai trouvé joli.
Très ésotérique.
Et je lui ai offert un verre d'eau et j'ai dit que ma grand-mère ne se retourne pas dans sa tombe, parce que ma grand-mère était juive. Elle me donne un verre d'eau, elle me regarde et je vois quoi ? L'étoile juive en bas. À Lourdes, ici, là-bas. Elle avait l'étoile juive. Et ça, c'était un signe pour moi. Le premier signe qu'on croit, Marie m'appelait. Alors après, je reviens à Lourdes, je prie plusieurs fois et je demande à la Vierge que si elle m'accepte comme chrétien. Et puis, les chrétiens me disaient toujours, faut prier le chapelet, faut prier ceci, faut prier cela. Et du coup, je commence à prier. Puis un jour, je me suis cassé la main dans ce sens-là. Et la première semaine est passée à Toulouse. Ma main n'était pas guérie. Moi, j'ai dit, j'en ai marre de tout ce bordel. Je vais partir à Lourdes. Et je suis parti à Lourdes. J'ai trempé ma main dans l'eau. Et ma main a été guérie quand j'ai revu le médecin. Mais c'est vrai en plus. Ma main a été guérie.
Vous aimez aller à la grotte, Cédric ?
À la grotte, pas tant que ça. Mais je devrais aimer aller à la grotte. Mais avant, devant la grotte, il y avait des fontaines à côté.
Oui.
C'est là que j'allais. Et j'aimais bien ce temps-là. Là, j'allais et je mettais ma main. Et c'est là que ma main était guérie. C'est l'eau de Lourdes qui fait des miracles. C'est l'eau de Lourdes qui est bénie. Parce que l'eau, elle touche la Vierge.
On peut dire que tout ce parcours de foi, il s'est construit avec le temps, que vous essayez encore aujourd'hui d'avancer avec ça pour peut-être vous renforcer ou pour trouver encore plus d'appui. Comment ça se passe aujourd'hui sur ce sujet ?
Je cherche de l'appui, oui, par rapport à la Vierge Marie. J'ai foi en la Vierge Marie, je demande toujours sa grâce, sa protection. Mais après, je suis comme tout le monde, je peux aussi me planter. Mais je crois toujours à la Vierge Marie parce que pour l'instant, elle m'a pas déçu. Mais c'est une maman, quoi. C'est une maman.
Il reste quelques minutes dans cette émission. Alors j'aimerais qu'on puisse les laisser peut-être ou les consacrer à ceux que vous voulez remercier. Parce qu'on a décrit un parcours de vie compliqué. Il y a ceux, non pas que vous les montrez du doigt, mais dont vous dites qu'ils vous ont plutôt fait des crocs en jambes, rendu la vie impossible, dure, compliquée dans votre enfance et puis ensuite. Et puis, il y a également des personnes que vous avez croisées dans votre parcours qui vous ont tendu la main, non ?
Oui, comme Sylvain à l'RTH, que je remercie...
L'IRTH, c'est un institut hôtelier.
Oui, c'est
et
ça.
De formation en cuisine.
Restauration hôtelière et commerciale du commerce touristique. Voilà, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais en gros, c'est être là-dedans. L'IRTH de Tarbes. Et ensuite, il y avait Sylvain, il y avait Marie-Pierre Mangel qui m'ont aidé à passer mon diplôme chef cuisinier. Et après, il y a eu aussi... Pascal Dossetto, qui était ma tutrice à l'école. Après, il y a aussi d'autres personnes qu'il y a eu avant, comme Georges Nozella, le premier qui m'a pris en apprentissage, qui avait le Café Gascon. Après, il y a Denosanti aussi.
Ce sont des gens qui ont cru en vous.
Je ne sais pas s'ils ont cru en moi, mais ils m'ont aidé toujours. Ils m'ont aidé et ils m'ont tendu la main. Et c'est là où je remercie Dieu, c'est que, en fait... Jésus a dit, tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. En disant cette phrase, il a tout résumé, Jésus. Il a tout résumé, il a tout fait.
Et donc vous vous dites qu'aujourd'hui, il faudrait sans doute une église plus proche des plus petits, des plus pauvres, de ceux qui sont un peu les laissés pour compte.
Disons que je me dis, par rapport à ça, oui, je me dis qu'on n'a pas besoin de gens comme certains évêques qui prennent la parole pour... parler des pauvres, que les pauvres vont prendre la parole pour parler d'eux-mêmes, plutôt que ce soit quelqu'un d'autre qui le prenne pour eux, et qui ont des comportements, après, parce qu'ils ont des bonnes, souvent, qui sont de travail pour eux, tout ça.
Là, vous exagérez peut-être, il y a beaucoup d'évêques qui sont aussi
non,
très au
service.
Non, mais
quand j'étais à Hoche, il y avait des bonnes qui faisaient le ménage pour les évêques, et après, quand il allait à l'église, il faisait la parole pour les pauvres. L'ancien évêque, je parle. Peut-être que j'en dis trop en disant ça, mais moi, je le voyais comme ça. Et après, je comprends pas pourquoi les pauvres, ils donnent à la quête, pourquoi les évêques, ils donnent pas à la quête. On peut me dire qu'ils reprennent le Christ, mais le Christ, il a pas fait foule. Quand il y avait des trucs, il donnait aussi de son énergie pour les pauvres, pour qu'ils aillent mieux.
Bon, écoutez, en tout cas, là, vous prenez la parole en votre nom au nom de ceux qui sont ou déshérités ou en difficulté. Vous vous considérez donc comme pauvre, Cédric ?
Je suis pas si pauvre que ça, mais je suis pas si plus riche. J'aimerais être des fois plus fort.
Oui.
Plus puissant, tout ça, avoir plus de pouvoir. Oui, ça, je suis attiré par ça. Mais la Vierge Marie, pourtant, a dit que c'était pas bien. Elle a dit que c'était pas bien, je peux vous expliquer pourquoi, si vous voulez.
Vous avez une minute, l'exercice est compliqué.
Parce que, en fait, la Vierge Marie a dit que les hommes, tant qu'ils se tourneront vers la gloire et l'argent, le pouvoir et tout ça et tout, ils éclatent après en guerre et ça fait des divisions. Et la Vierge est contre les guerres. Elle veut que les hommes s'apprennent à s'aimer les uns les autres. C'est pour ça qu'à la première, au début de l'émission, j'ai dit, l'idéal, c'est de vivre dans l'amour. L'amour, c'est pas tout ça.
C'est une magnifique conclusion. L'instinct de survie d'un éliminé, c'est donc cet ouvrage qui est paru aux éditions Sidney Laurent. Cédric Gage, c'est vous, Cédric, ouais, qui avez écrit tout cela, avec l'aide d'un certain nombre de personnes qui vous ont relu, qui ont permis aussi que parfois, bon, bah, votre histoire soit racontée de façon cohérente, hein. Vous avez, ouais, été accompagné dans tout ça, avec des photographies, des échanges de courriers, des lettres que vous recevez d'un certain nombre de personnes, parce que vous avez beaucoup sollicité autour de vous, vos diplômes, Paul Bocuse, qui vous... Enfin, bon, bref, beaucoup, oui, de, beaucoup de richesses et de documents dans ce livre. Merci beaucoup pour votre courage, Cédric,
merci pour
de témoigner, et puis à bientôt peut-être sur cette antenne. Au, okay, revoir.
Merci, au revoir.